énergie renouvelable, recherche et technologie. Donc là-dessus, on avait quelques informations dans l'étude de 2004, notamment en matière d'énergie renouvelable. Ce n'était pas non plus très fourni. Donc encore une fois, aujourd'hui, on va essayer de pointer les grands traits du diagnostic territorial et puis la commission pourra, avec les experts qui la composera, approfondir un peu ces aspects. Sur la recherche et la technologie, on n'a rien. Ni recherche et technologie, ça reste à faire. Puisqu'on n'avait pas d'approche.
Qu'est-ce que vous entendez par recherche et technologie?
En fait, le parc peut avoir des partenariats et mettre en place des programmes de recherche sur le territoire, soit de recherche sur la faune, soit de recherche en énergie renouvelable. Donc faire des partenariats avec des centres de recherche sur la Camargue, par exemple, à la Tour du Vala, c'est un observatoire de la faune qui est financé par une fondation. Et le parc subventionne et qui fait de la recherche en fait sur notamment les moustiques et tous ces aspects-là. Donc en fait, c'est une des cinq grandes missions des parcs, mais qui est souvent traitée de manière secondaire. C'est quand même quelque chose d'important. Donc on parlait tout ce matin de Sophia Antipolis, un aspect de recherche sur les énergies renouvelables. Voilà, c'est identifier un petit peu en termes d'opportunités quel partenariat le parc pourrait. Mettre en place, soit avec les universités, avec les centres de recherche. C'est plus ça, quoi. Donc je vous lis peut-être quand même rapidement. Je vais lire rapidement. Donc on avait la présence de centrales hydroélectriques. On a enlevé tout ce qui était quantifié, parce qu'en fait, comme le diagnostic de 2004, on s'est aperçu, on a déjà fait un point avec les animateurs sur le document, on s'est aperçu que les données quantifiées étaient souvent à actualiser, donc on n'a préféré pas les mettre, et en sous-commission, on pourrait réactualiser les chiffres. Donc on avait présence de centrales hydroélectriques, un niveau d'ensoleillement important, l'existence d'aide aux installations de production d'énergie renouvelable, notamment l'ADEME et le Conseil régional, donc c'est pareil, c'est la date de 2004, est-ce que c'est encore en place? Ça sera confirmé. Une ressource en bois énergie très importante, et puis en recherche et technologie, donc là les atouts sont à souligner. En termes de faiblesse, on avait encore en 2004 un nombre d'installations solaires thermiques qui était faible, même chose pour les installations photovoltaïques. En termes d'opportunités, il y a tous les aspects potentiels de production d'énergie renouvelable, notamment bois et solaire en lien avec les atouts, et puis en menace le réchauffement climatique. Donc là, il y a pas mal de choses à compléter. Est-ce que déjà, on commence par les énergies renouvelables, on essaie de séparer un peu les thématiques.
Oui, donc moi, je m'occupe de l'animation Nature Avenue sur le site des Préalpes de Grasse.
Ouais.
Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte demande par rapport aux fermes photovoltaïques, surtout.
Ouais.
Et se pose le problème du développement des énergies renouvelables et de la préservation du milieu. Donc ça va certainement ressortir en commission 1, mais... on ne peut pas non plus développer les énergies renouvelables partout et n'importe comment.
D'accord.
Donc ce qui se passe, nous, dans le cadre de Natura 2000, c'est ce qui a été acté au dernier comité de pilotage. On va réfléchir sur un schéma de développement des fermes photovoltaïques éoliennes pour avoir une idée à plus ou moins long terme des endroits où on peut localiser des fermes photovoltaïques.
À quel niveau c'est une dégradation du milieu?
Les surfaces utilisées sur des milieux avec une grande biodiversité.
Oui, quand c'est pas sur des toits des maisons, quand c'est
des... Non, je parle des fermes photovoltaïques qui sont sur plusieurs hectares.
Oui. Des fermes photovoltaïques sur plusieurs hectares.
Oui.
Ça existe ici,
bien sûr.
Depuis quelques années, il y a de plus en plus de sociétés qui se développent pour mettre en place des fermes photovoltaïques.
Ouais.
Donc pour la production d'énergie renouvelable.
Ouais.
Ok, très bien. Et le problème qui se pose maintenant, c'est un, il n'y a pas de procédure réglementaire claire pour installer les installations.
Ouais.
Et il y a aussi l'enjeu environnemental pour les énergies renouvelables est important, mais il faut aussi le mettre au regard de la biodiversité et autres.
Ouais.
Ouais. Et les éoliennes aussi. Par rapport à Natura 2000, on a ce problème-là, on a des demandes de fermes photovoltaïques donc qui concernent le site du PNR, puisque c'est sur la Fura, et donc qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle mesure, avec quels critères, on peut juger toutes ces demandes? Ça, c'est un gros problème.
Objectif écologique.
Donc il faut les développer, ces énergies renouvelables, mais
comment?
Avec quels critères?
Vous pensez que le
Rouen n'a fait rien?
après, il peut avoir des échanges d'expériences intéressantes avec le parc du Verdon qui a développé, qui a travaillé sur un schéma justement par rapport au photovoltaïque où ils essayent de vraiment d'être en amont des projets pour essayer de dire voilà, il y a des règles en effet, c'est pas de n'importe quoi, il y a quelques principes à respecter, etc. Ça pourrait être intéressant d'aller vers ça aussi.
Il y a une étude qui est faite au niveau du Conseil général sur cette thématique-là, sur laquelle nous on va se baser pour redéfinir une stratégie par rapport à Natura 2000, mais ça concerne les enjeux des habitats et des espèces, les directives habitats, mais ça pourrait dans le cas du PNR aller au-delà.
C'est vrai que c'est pas simple, c'est pas que le PNR qui est soumis à cette problématique. Je pense que c'est tous les territoires, effectivement, où l'ensoleillement, on l'a noté, était conséquent et qui, évidemment, et même ailleurs, puisqu'on sait que c'est largement plus développé dans l'Europe de nord et de l'est. Mais voilà, il faut arriver à faire en sorte que un certain nombre de considérations qui sont inscrites dans le Grenelle, quoi, puisse être mise en œuvre, mais avec en sachant raison garder, hein, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, n'importe où, et c'est vrai que les enjeux de protection sont au moins aussi forts que les enjeux de production d'énergie renouvelable. Enfin, en tous les cas, pour le photovoltaïque.
Je crois que l'éolien, c'est pire que le photovoltaïque.
C'est
pire.
Bonne note. On a eu la
première sur
en présence du président du PNR, justement. À l'endroit où devait s'installer IKEA, il va y avoir la plus grande ferme photovoltaïque.
C'est qui ?
Pardon. Au bec de l'Estéron, donc juste en face de la fameuse usine très décriée, il va y avoir un projet 100% ferme photovoltaïque. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
Vous savez que la toiture du CBO était 2500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
Oui, mais ça, c'est au-dessus. Moi, je regarde plutôt ce qu'il y a en dessous du côté de...
2500 mètres carrés.
Voilà. Alors, très concrètement, ce qu'il ne faut pas passer à côté d'une énergie majeure, c'est les algues microscopiques. Ça, on n'en a pas parlé, et je pense que c'est majeur. On a la chance d'avoir Sophia, d'avoir Nimria, d'avoir l'INRA, d'avoir des gens... Donc, algues microscopiques, je pense qu'on ne doit pas passer à côté, sinon on sera en retard de 20 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut l'inscrire dans les énergies renouvelables, en fait. Hein.
Ça concerne le territoire du PNR ?
Ah, bien entendu. On a le Loup, on a l'Estéron, on a tout l'eau de partout. Donc je pense qu'on peut faire des petites fermes, justement. Moi, je me bats pour qu'au lieu qu'on ait cette usine de traitement des déchets, pour qu'on ait justement des bassins de culture d'algues microscopiques, pour qu'on ait, qu'on soit à la pointe.
On est très content d'accueillir les spécialistes de ce genre d'énergie renouvelable, que pour ma part, j'ignorais.
Voilà, une micro-algue, et je pense qu'on pourrait être...
Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne comment ?
Ah, ça...
Pour un certain type de déchets. Un certain type de déchets.
Ah non, 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 c'est pas très grand des déchets du tout. C'est des micro-algues qui, en fait, en pouvoir calorique, ils vont fonctionner les moteurs, comme certains moteurs fonctionnent au colza, autour du sol, etc. Là, vous avez des micro-algues. Bon, ça, c'est pour l'aspect énergie, hein, mais aussi l'aspect culinaire de la chose. Voilà. Donc, on devrait être au top. À mon avis, il ne faut pas passer à côté. Si on passe à côté, on a 20 ans de retard. Voilà.
Mais donc, juste pour rappeler, donc, en ce qui concerne les fermes photovoltaïques, visiblement, la commune de Toudon a équipé toute une partie de son, va équiper toute une partie de son versant, en espérant, enfin, parce qu'ils espéraient bien récupérer la taxe professionnelle sur la ferme photovoltaïque, et compte tenu des réformes actuelles, je crois qu'ils sont en train de bien regretter leur choix, quand même. Parce qu'il y a quand même une pollution visuelle qui est assez importante, hein, pour le photovoltaïque. Hein, il ne faut quand même peut-être pas trop négliger non plus. Donc dans le cas d'un parc, il faut savoir faire avec modération.
C'est ce qu'on disait, quoi. Il y a un souci de préservation, effectivement, dont l'aspect visuel est évidemment très important. Je veux dire, on peut peut-être imaginer de faire des grands champs photovoltaïques qui soient moins vus... peut-être un peu moins bien exposé, avec un rendement un peu loin. Donc, hein. Mais c'est sûr que si on est en plein milieu d'un site magnifique, parce que c'est l'endroit où c'est plus fort au point de vue ensoleillement, et qu'on fait fi de tout le reste, et qu'en plus on a compté sur la taxe professionnelle qui peut être effectivement supprimée, c'est pas l'opérer du succès de l'opération.
C'est le cas aussi pour les fermes éoliennes. La question de l'éolien et de son impact paysager, c'est un enjeu dans tous les parcs et très important. Il y a des parcs qui refusent d'installer de l'éolien, alors que ça devrait être une de leurs principales thématiques de développement des énergies renouvelables. Mais les impacts paysagers font que finalement...
Il y a aussi
beaucoup de choses. Ne pas oublier.
Il faut revenir.
Pour confirmer ce que dit monsieur, là, il y a deux autres problèmes liés à cela. La première chose, c'est que 250, je ne sais pas combien, 2500 mètres carrés de silicium, je ne sais pas ce qu'on fait du silicium après. La deuxième chose, c'est que le rendement est très très faible, c'est à peu près 100 watts au mètre carré, ça ne fait pas beaucoup de production d'énergie. Et aujourd'hui, c'est rentable, ces choses-là, parce que l'EDF, c'est pas l'EDF, c'est l'environnement, vous le rachète à peu près 6 fois le prix du kilowattheure.
Voilà, ça fausse.
Nous payons, non, on s'en fout pas.
Ça fausse le problème.
Oui, pardon. Merci, oui. Ça fausse totalement le problème et des intérêts. Et, non, mais on est d'accord. Et les éoliennes, simplement, c'est... il faut le dire aussi, je viens du monde de la technique, une éolienne, ça consomme beaucoup plus d'huile que n'importe quel moteur électrique. Il y a des roulements énormes à l'intérieur, on change d'huile tous les jours et c'est monstrueux. Donc c'est assez polluant une éolienne. Mais il ne faut pas l'oublier non plus.
Oui, non, en termes de bilan,
c'est très mauvais.
C'est faux.
Parce que le rendement est très mauvais. Voilà, je tenais
ce moment. Non, mais
c'est
par rapport à ça. Faites-le, le bilan, vous allez voir.
Ce bilan, il a été fait par les experts dans le cadre du Grenelle de l'environnement.
Non, mais ce que je dis, c'est irréfutable. Ne vous inquiétez pas, c'est
la même chose aujourd'hui au niveau mondial.
Globalement, de toute façon, on n'est pas sur une discussion technique. Le problème, le gros problème des installations des agents, c'est l'aspect paysager. Ça, c'est clair, l'impact paysager. Là, ça sera au parc de se positionner. Là, aujourd'hui, on va voir, comme je vous dis, on ne va pas définir la stratégie du parc sur l'éolien. On peut inscrire les enjeux via l'éolien.
J'ai noté tout à l'heure.
Mais ce sera au parc ensuite de se positionner politiquement, parce que c'est un positionnement politique sur est-ce qu'on veut l'éolien ou pas, est-ce qu'on accepte les impacts paysagers, comment on gère.
Non mais c'est pas, on ne devance pas le propos là, c'est une question de base. J'ai demandé à poser la question combien de kilowatts et il faut savoir de combien de kilowatts au pied d'une éolienne aussi. Non, parce que quand on fait des énergies renouvelables, qu'on propose des solutions alternatives, il faut savoir vraiment la performance de l'outil alternatif.
Merci.
Parce que moi je rejoins monsieur pour les éoliennes. Les éoliennes, ça marche très bien pour les voiliers, ça marche très bien pour les moyennes puissances, vous m'excusez, chère madame, beaucoup plus mal pour les grosses puissances. Et on va en reparler des éoliennes de grande puissance.
Et les roulements.
Et les roulements, il n'y a pas que ça.
Les roulements de 2000 personnes.
Il n'y a pas que ça. Les roulements de chars d'assaut qu'on met dessus.
Il n'y a pas que ça. Une éolienne aujourd'hui, vous faites. Juste pour répondre à ça. Aujourd'hui, alors peut-être pour regarder, nous avons beaucoup plus large de débat, parce qu'on va rentrer là-dessus. Non, mais aujourd'hui, vous êtes parlé des objectifs du Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, il y a énormément d'experts qui se sont penchés sur ces questions-là. Donc les objectifs ont été fixés dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Il y a trois axes. Il y a un axe développement des énergies sous forme de chaleur. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut développer les filières bois énergie. Donc ça, tout ce qui est production de chaleur. Il y a un axe très important qui a été mis sur le bois énergie. Pour tout ce qui est production d'électricité, aujourd'hui, trois quarts des objectifs qui sont assignés par la France en termes de production d'électricité doivent être faits à partir d'éolien. Une éolienne moderne aujourd'hui, ça vous fait la consommation électrique de 2000 personnes. Donc c'est tout sauf négligeable. Après, il y a des enjeux paysagers qui sont réels, évidemment, les éoliennes se voient. Et c'est dans ce cadre-là que le débat est situé. Si on se part, si on se...
Excusez-moi, on pourra aborder tous ces détails dans la mission, parce que je pense que là, justement, on est sur du détail technique, et je pense que vous devrez avoir des échanges là-dessus pour fixer exactement quels sont les points forts et les points faibles de l'éolien. Là, c'est un petit peu trop de détails pour la commission aujourd'hui. Attendez, il y a monsieur là-bas.
Je vais peut-être avoir une idée utopique, mais vous êtes titulé « Énergie renouvelable ». Mais il y a aussi le mot économique qui doit apparaître quelque part. Alors je vais être utopique. Est-ce que l'ensemble des habitants du parc pourraient pas être intégrés dans une dynamique d'économie? C'est-à-dire qu'au lieu de penser toujours mettre des panneaux photovoltaïques, commençons par le plus simple, peut-être mieux isoler les maisons comme le font les Allemands, ainsi de suite, et faire adhérer les habitants à cette dynamique qui va servir éventuellement de pilote au reste de la population.
Enfin, c'est une idée mythologique. Une stratégie de maîtrise des consommations d'énergie.
Ça me semble une priorité absolue, effectivement, au niveau des individus et de leur maison. C'est-à-dire ce qu'on appelle la maison passive, tendre vers la maison passive.
C'est pas un argument au niveau du parc.
Encourager le principe de la maison passive. alors qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de développer plus que 12% de puissance sur le photovoltaïque. Quoi, hein, voilà. Et qu'il existe d'autres systèmes que le silicium ou le cadmium pour faire de l'énergie à partir de concentrateurs et à partir du soleil.
Est-ce qu'on peut pas mettre dans les enjeux du parc ?
Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Intégrer l'économie dans la
ça, je pourrais dire.
On vous entend pas, c'est ça.
Par rapport aux faiblesses, c'est par rapport surtout à l'installation de panneaux solaires thermiques en voiture. Il y a des limitations au niveau des postes et des pelles. Donc je sais que c'est un peu un aménagement du territoire que je pense qu'il faut prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que les Côteaux d'Azur et puis Pôle-Azur-Provence sont impliqués dans divers plans au niveau régional, projet Agir, collectivité pilote pour la maîtrise de la demande en énergie, et également plan local énergie environnement.
Vous pouvez me redire quelles sont les structures qui sont indiquées ?
Voilà.
C'est une opportunité.
C'est maîtrise de la demande en énergie, donc il y a déjà des choses qui sont faites pour l'Azur-Provence.
D'accord.
Voilà. Et Kazan aussi. Ah, voilà.
Si vous avez compris.
Oui, on peut préciser qu'effectivement, la charte va s'imposer aux documents d'urbanisme de type POS, PLU et SCOT, si bien qu'effectivement, c'est important de le mentionner dans la charte. Et à ce moment-là, ça sera automatiquement. Les communes qui seront dotées de ces documents seront obligées de réviser une partie de leur rapport de présentation pour intégrer les dispositions de la charte. C'est une contrainte qui est importante et qu'on a signalé au maire quand on leur a parlé de la mise en place d'un PLU.
Je peux rebondir sur ce que vous venez de dire.
Attendez, mademoiselle.
Parce qu'en fait, c'est un document qui ne vaut pas servir d'utilité publique.
Quoi donc ?
La charte, c'est pas comme un poste, c'est pas comme un PLU, c'est pas comme un PPR. Ça ne vaut pas
ça. Ça n'est pas opposable, mais par contre, c'est impératif de le rendre cohérent avec les documents existants.
Ça, les documents d'urbanisme existants doivent être compatibles avec le plan.
C'est fabuleux, ça.
Ouais.
Ils le savent, les maires ?
Ah bah oui, on leur a expliqué. POS, c'est des questions. Carte communale, POS, PLU, SCOT.
Parce pas qu'il ait compris la même oreille pour eux, c'est juste un avis consultatif. Hein.
Voilà, moi je suis d'accord avec vous. Non mais, on est d'accord, il n'y a pas de cohérence qui découle. Il n'y a pas de compétence qui découle d'un PNR. Donc on peut pas ni contraindre, ni... Mais par contre, légalement, ça s'impose au niveau de l'intégration de ce qui est contenu dans la charte, dans le rapport de présentation, et duquel doivent découler les dispositifs réglementaires du zonage.
C'est parfait.
Et de toute façon, le plan de parc sera étudié et validé par l'Assemblée des communes. Les communes ne vont pas arriver à découvrir le plan de parc.
Non, mais en même temps, il ne s'agit pas, à travers la charte du PNR, de dire « Ah ben non, le recul sur limite, ça va être 6 mètres et pas 5 mètres. » Non, non, c'est pas ça.
On n'est pas à des échelles, on est sur des positionnements de grands enjeux sur le plan de parc. Des vocations d'espace, est-ce qu'on veut maintenir une zone agricole sur tel endroit ? On veut maintenir un espace naturel, donc localiser les zones naturelles sensibles, protégées, localiser les espaces agricoles à maintenir, localiser les espaces architecturaux à densifier, c'est ce genre de grands enjeux en fait. Effectivement, on ne rentre pas à un niveau aussi fin que peut le faire un document d'urbanisme communal.
Mais concrètement, je vais au TA, je me prévaut de l'irrespect.
Vous êtes spécialiste du TA quand même. Hein.
Affirmatif, tout à fait. Donc, je me prévaut de la charte du PNR, ça sert à rien. On va parler concrètement. Voilà. Donc,
ça sert à rien. Si c'est pour attaquer quelque chose qui ne vous convient pas au titre d'un permis de construire, évidemment. Mais si le permis de construire, par contre, lui, a été délivré par le maire, alors que c'est une zone naturelle, mais qu'il a essayé de contourner la difficulté, et que pendant ce temps-là, il n'a pas respecté ce qui était inscrit dans la charte, oui.
Vous êtes sûr ?
Ben, évidemment.
Parce que moi, ce que j'ai entendu dire, notamment de la bouche du président, c'est un document qui n'avait pas valeur de servitude publique. C'est-à-dire, c'est un document...
Non, mais c'est pas le permis que vous allez attaquer à ce moment-là, c'est le PLU. Si le PLU est pas conforme, et après, sinon, effectivement, c'est l'acte du maire. Mais bon, ça, c'est grave, ça, quand même. Ça va être grave. Non, mais sinon, le PLU, c'est lui, c'est nous, hein, qui donne les se doit d'être cohérent avec ce qui est assez large.
Effectivement, le camp parc est dédié aux
abonnés.
Effectivement, c'est le maire, mais c'est DDE qui
est lui. Donc, par l'intermédiaire du document d'urbanisme, vous êtes censé, vous voyez ce que je veux dire, il y a un plan de parc. Le parc, quand il va être créé, il va essayer d'aider les communes à réviser leur document d'urbanisme, à le mettre en cohérence si besoin avec le plan. Et une fois que les documents d'urbanisme auront été révisés, ils seront cohérents avec les grands enjeux du plan de parc. Là, il y aura une possibilité de...
De toute façon, la charte, elle se trouve entre la DTA et le document d'urbanisme. Donc, par contre, déjà, il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites dans la DTA, hein, surtout dans le domaine de la montagne. Et que, de la même manière que le PLU ou le POS ont été tenus de respecter les éléments de la DTA, qui elle-même découle de la loi montagne et entre loi paysage et compagnie, bien, de la même manière, ce qui sera inscrit dans la charte, il
devrait
être intégré dans
le dispositif.
C'est parfait.
Oui. Donc dans les opportunités pour les énergies renouvelables, est-ce que ça serait possible de prévoir la rénovation de tous les moulins, toutes les petites centrales micro-hydroélectriques qui existent et qui sont tombées en désuétude? C'est-à-dire qu'en fait, le long de l'Estéron, par exemple, vous avez tout un tas de moulins qui sont à l'abandon. Donc, ça ne serait pas construire quelque chose de nouveau, ce serait simplement remettre au goût du jour, plus, de manière à limiter la
préservation du patrimoine.
Donc, ça, c'est là.
Il y a beaucoup
d'opportunités.
Des petites centrales électriques.
Non,
c'est des moulins.
Il y a des moulins et des micro-centrales.
Des micro-centrales.
Tout à fait. Il y a un certain président de la République qui a décidé de faire sauter la taxe professionnelle en partie. Il y a peut-être une opportunité là sur le téléphone. À partir du moment où on crée un lien entre des gens qui peuvent rester chez eux dans l'arrière-pays, qui soit justement dans cette partie du PNR, et sortir du pôle.
C'est pas l'histoire.
Non, pardon. Allez, dans l'arrière-pays. C'est de notre côté. Dans le Haut-Pays niçois. Dans les Alpes-Maritimes.
Voilà. On s'appelle PNR des Préalpes d'Azur, pour l'instant.
D'accord. Ça ne change pas l'objectif. À partir de ce moment-là,
ici, parce
on
que
peut
vous êtes dans la Cancasse, non, vous êtes niçois. Nous, on n'est pas dans la Cancasse.
Je continue.
Il y a toi la métropole.
À partir du moment où on peut garder un certain nombre de personnes chez eux, les sociétés qui les emploient pourront peut-être se faire valoir d'un gain de CO2 sur les allers-retours. C'est peut-être quelque chose à gratter.
Et pourvu qu'à ce moment-là, ça les oblige à payer aux communes, ce qui remplacera la taxe professionnelle.
Peut-être.
Sinon, je sais pas
direct,
pas comment on va
faire. Mais le télétraitement, oui.
C'est une possibilité. Oui, non, mais ça, c'est à...
Mais le télétraitement est à tester, est à mettre là-dedans. Le télétravail. Dans les opportunités.
Dans les technologies, recherche technologique.
Parce qu'on n'a pas grand-chose de problème.
Ouais, c'est vrai.
Mais sur les partenariats éventuels avec des acteurs de la recherche, de la technologie, la proximité, qu'est-ce qu'il y a de...
On a toujours dit qu'effectivement, on avait un des atouts considérables, on ne l'a pas écrit, c'est difficile d'écrire, parce que c'est extrêmement transversal, c'est les pôles de compétitivité qu'on a sur les départements des Alpes-Maritimes, avec lesquels, effectivement, on peut travailler et développer le travail à distance.
Mais si le travail à distance, vous n'intéresserez jamais à un industriel, s'il n'a pas de l'argent à gagner derrière. Donc, pour ça, il faut trouver le motif. Il y en a peut-être un, vous avez donné un comme ça, qui n'est pas encore dans les textes, mais il faut en trouver l'un, autrement, ce sera pas, ils n'y viendront pas dans l'arrière-pays, quel qu'il soit. Donc, il faut l'intéresser, il faut qu'il gagne des sous, l'industriel. Pour laisser les gens chez vous. Ouais, ça lui peut être.
Ce qui concerne les téléphones portables, est-ce que le PNR prévoit quelque chose
sur les antennes téléphoniques? Il y a des parcs qui en fait font des intégrations paysagères d'antennes de téléphonie mobile. Ce genre de choses, l'approche parc, ça va être une approche paysagère, ça va être une approche en fait de partenariat avec les opérateurs. Il ne peut pas faire
La pollution.
De pollution.
Au niveau des ondes.
Jusqu'à maintenant, on n'a pas arrêté de parler de l'être humain dans le parc. On a oublié qu'il y a des insectes et des animaux qui vivent dedans. Et tout ce qui est pollution lumière, pollution micro-ondes,
électromagnétique.
Électromagnétique, voilà. Tout ça, ça affecte, ça affecte aussi les habitants du parc.
Et est-ce que c'est sur les territoires de l'eau ce genre de problématiques?
Ah oui, il y a des antennes sur le territoire.
Oui, mais est-ce que c'est là qu'il y a plus de concentration d'ondes? Est-ce que c'est sur les territoires de l'eau?
Non, mais c'est là qu'il y a plus de biodiversité, en fait.
Non, effectivement, mais pas le problème. Il y a aussi des habitants, mais aussi on a des antennes de téléphonie, je ne sais pas si tous les habitants...
C'est sûr, de l'autre fois, j'ai vu des écureuils à trois têtes.
Et on peut le mettre comme recherche à faire?
Tout à fait.
Comme piste...
On ne pourra jamais dire aux gens, en venant dans notre territoire, coupez vos portables. Hein.
Qui n'a pas de portable?
On n'est quand même pas dans les mêmes problématiques que les antennes à proximité d'une école, comment il y a envie, des choses comme ça. Quoi. Les antennes que je connais, elles sont toutes sur des pics, sur les antennes, les relais de télévision actuels, et que bon, elles n'ont pas spécialement...
Il faudrait
aussi dénoncer des carences de couverture. Or, aujourd'hui, a priori, c'est plus couvert. Un GSM, c'est couvert à 100% au niveau du territoire. C'est pas la peine d'en rajouter. On est d'accord.
Oh, si, on va avoir des meilleurs réseaux quand même.
Madame pourra en parler.
Oui. Au niveau des lignes de très haute tension qui souhaiteraient passer encore par la RPI et notamment maintenant dans le PNR. J'espère que dans le futur, ce ne sera pas toujours la RPI qui sera concernée. Dans les tracés à venir, ouais, qui aura des solutions qui seront peut-être trouvées, ou l'enfouissement, ou des trucs comme ça.
Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre, je vais faire remonter, mais c'est une réponse que je vais entendre souvent au niveau d'EDF, c'est très compliqué, mais je suis en la production hydraulique, donc je veux bien apprendre votre remarque, mais moi, je ne pourrais pas vous répondre.
Par le sujet, c'est pour ça que j'en parle, avec des lignes de tension qui quadrillent ma propriété. Et donc, vis-à-vis des projets futurs, il ne faudrait pas oublier qu'il y a quand même des populations humaines, et puis là, il y a un parc qui va s'installer, donc...
Vous avez l'exemple du parc du Verdon, où au final, la ligne, c'est pas faite.
Ben voilà, c'était bien, parce que c'est une pollution visuelle, et
bien sûr, après, ça dépend, ça va des... Après, on est toujours sur le lien entre les enjeux locaux et les enjeux plus généraux d'un département ou d'une région.
Voilà.
Donc après, ça, c'est vraiment des politiques globales, on va dire. Donc,
ça, c'est de la mission typique d'un parc, de donner un avis... de toute façon, l'avis sera toujours défavorable. Hein. Il y a trop de tension sur un parc naturel régional. Tous les parcs se sont opposés. Quand même. Le projet, c'est quand même
problème, c'est qu'on a déjà. Le problème, c'est qu'elle y est déjà, la PHT.
Oui, mais le parc n'existait pas quand elle a
été. C'est sûr.
Il ne peut pas arriver.
Non, mais on ne peut pas dire, pas de PHT sur le parc parce qu'elle y est déjà, quoi.
Non, mais le parc ne peut pas s'opposer à une infrastructure qui est déjà en place. Il ne peut pas arriver et demander le démantèlement. Par contre, s'il y a un nouveau projet, il va pouvoir se positionner.
On a écrit suivi des éventuels projets PHT.
Ah oui, pardon.
Est-ce que...
Par contre, alimenter l'ensemble des communes, enfin des villages, avec des réseaux informatiques très haut débit, par fibre optique, oui. Et faire en sorte que...
Ça coûte très cher.
Ouais, il y aura des grands porteurs aussi, en fait, pour certains.
Est-ce que le fait d'enterrer les lignes à moyenne tension, petite tension, ça peut être...
C'est très coûteux.
Oui,
c'est très coûteux.
Mais alors, ça peut rentrer dans le projet.
Tout à fait. Alors le problème, c'est que c'est très coûteux. Mmh. Et que pour que ça soit, en fait, que ça soit utile, il faut que ça réponde à plusieurs enjeux. Mmh. On ne peut pas le faire uniquement pour répondre à un aspect paysager, par exemple. Il faut qu'il y ait un aspect éventuellement de catastrophe naturelle, de dégradation des lignes. Il faut croiser ça avec plusieurs enjeux. Ou alors une mauvaise desserte.
Et vous pouvez voir quand il y a de la réception de roues, etc., prévoir au moins tirer les...
C'est plusieurs millions d'euros. Hein. Par rapport aux moyens d'un parc, c'est...
Mais dans les sites classés, vous avez des sites de parc, il y en a trois sites, les lignes sont peut-être enterrées.
Les lignes nouvelles, mais pas les lignes existantes. Par contre, c'est vrai que EDF est très montré du doigt parce qu'il ne met pas l'argent qu'il s'était engagé à mettre dans l'enfouissement des lignes moyenne tension. Et ça, il y a un gros retard. Voilà. Chaque année, il était prévu de faire un kilométrage qui est pour l'instant pas respecté. Qui va faire respecter à EDF ce genre d'engagement?
Oui, mais l'engagement était sur le kilométrage ou sur l'engagement financier?
Ben, les deux.
Oui, non, mais quand on prend un engagement, on dit je fais 10 km, on fait 10 millions.
Oui, non, mais bon, ils ont fait valoir effectivement les problématiques des tempêtes de 99, de cette année, etc. Et
qu'ils ont dû faire face à d'autres trucs qui
étaient passés. C'est à l'occasion de ces tempêtes-là que chaque fois on revient sur en disant si ça avait été enterré, évidemment.
Je crois que du point de vue cofinancement, il y a toujours 70% qui est pris en charge éventuellement par. Je ne sais trop quel sous-filiale d'EDF pour aider les communes à enterrer le câblage électrique. Hein.
Ouais, ouais.
Mais après, je crois que le conseil général, c'est 80% actuellement.
C'est le front d'aménagement.
C'est ça. Oui. Je ne me rappelle plus si
c'est enfin, bref, c'est ce fonds qui abonde effectivement les financements pour les communes.
Après, donc du coup, c'est...
Sont partagés à beaucoup de communes.
Bon, maintenant, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est qui... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que c'est une collectivité territoriale qui fait quelque chose, j'ai l'impression que les devis derrière sont légèrement exagérés à chaque fois, quoi. Donc pour faire une tranchée à 70 cm de profondeur, faire payer ça à 70 euros du mètre linéaire, bon, je pense qu'il faudrait peut-être réussir à tempérer un peu les ardeurs. Alors, aussi des
intervenants. On est pas trop fort, mais on espère que la crise va nous y aider.
Ouais.
Après, suivant les secteurs, il y a quand même des syndicats d'électrification, notamment sur certaines communes du périmètre du parc aussi. Donc, c'est pas directement forcément EDF, oui, il y a les STEI.
Toutes les communes du parc ont une compétence transférée aux DEG.
Ah, voilà, c'est ça. Donc il y a cet interlocuteur-là qui est important aussi.
Le syndicat départemental de l'électricité et du gaz.
Est-ce qu'il va adhérer à la chose?
Mais qui fait la fonction de maître d'œuvre. Enfin, plus exactement, qu'il y a une maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte des communes et qui demande des financements au conseil général. Et au FACER, en l'occurrence.
Et
il y a quelqu'un de la LPO parmi nous? La Ligue de protection des oiseaux?
Ils sont à côté.
Ah, à côté?
Il y a le monsieur.
Ah, dommage. Okay. Parce qu'en fait, pour l'enfouissement des lignes, ils sont très impliqués. Hein. Parce qu'il y a pas mal d'oiseaux qui grillent sur les lignes, donc ils sont pas mal impliqués. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Comme pour les rivières, tout à l'heure on parlait des rivières, les pêcheurs, même chose, hein. Ils ont intérêt à ce que les rivières restent propres. Donc nous, notamment avec mon collègue du Broc, donc c'est la rive droite de l'Estéran, on se bat justement pour l'enfouissement des lignes aériennes, très très dur. Très très dur. C'est un combat au quotidien avec les propres membres de notre conseil municipal, d'une part, et on essaye de placer l'Estéran réserve de pêche pour un certain moment. Très très dur. Donc là, on compte sur vous, sur l'appui du PNR, pour avoir un moyen de pression supplémentaire. Voilà.
Mais globalement, est-ce que l'enfouissement des lignes moyenne tension, c'est vraiment un enjeu sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a des zones concernées par cet enjeu-là?
Il faut faire remonter l'information. Et partant
donc ça
de là.
Sous commission,
exactement, tout à fait.
Parce qu'il y a... C'est un enjeu paysager.
Voilà,
pour la qualité du territoire.
C'est plus que paysager. Bon, ce qui s'est passé dans les Landes, c'est plus que paysager. C'est plus que paysager, vu que dans les Landes, ils ont eu, je ne sais pas trop combien de jours de coupure, donc il y a l'aspect sécurité en même temps.
On n'est pas dans un quoi, en fait, non. Pas autant que l'Aquitaine.
Qu'est-ce qu'on fait des déchets?
Est-ce qu'on passe aux enjeux là pour...
Je voulais simplement ajouter quelque chose concernant l'énergie. C'est est-ce qu'il ne serait pas possible que le PNR se fasse le relais du Grenelle de l'environnement et fasse en sorte que au sein du PNR, on mette en place ce qui a été demandé dans le Grenelle de l'environnement en matière énergétique, en particulier le 3x20, quoi, avec 20% de moins d'énergie d'émissions de CO2, 20% d'énergie renouvelable et tout ça à l'horizon 2020. Est-ce que ça peut...
se fixer des objectifs de ce type, un peu pour que ce soit réaliste.
Alors c'est le Grenelle de l'environnement qui ne l'est pas réaliste. Hein.
Non, parce que je veux dire, bon,
sur le... Mais c'est juste ça, c'était fait à Paris.
Sur le CO2, sur le territoire, on a vu qu'il y a peu de transports collectifs possibles, donc beaucoup de transports en automobile. De ce fait-là, c'est pas évident de limiter les déplacements sur un territoire de ce que...
Oui, mais la production, notre potentiel de production d'énergie renouvelable peut-être nous permettre d'y arriver. Si effectivement on aura du mal à faire déplacer les gens par du transport collectif parce qu'on est dans des territoires assez grands et assez éclatés, ça j'en conviens tout à fait, je suis le premier à le subir, et à être tout seul dans ma voiture, je le déplore tous les jours, mais peut-être que le potentiel de production d'énergie renouvelable qu'on a par le vent, le soleil, notre patrimoine forestier et toutes les ressources qu'on peut utiliser, peut-être que ce patrimoine-là, si massivement on se met à produire, on va équilibrer notre bilan carbone. Oui,
c'est on peut tendre vers ça.
Pas équilibré, mais atteindre cette réduction de 20%.
Je rappelle encore une fois que nous n'avons aucun moyen financier pour le faire.
Oui, non, mais je sais bien.
Le PNR ne peut être...
Pour toujours avoir des idées.
Le PNR peut être un facilitateur de ce genre de mise en place, mais en l'occurrence, au niveau de notre département, le Conseil général s'est positionné dans un Grenelle départemental d'une part et un plan de climat d'autre part, qui permettront d'engager effectivement un certain nombre de sommes assez conséquentes pour aller vers le 3x20. Bon, ça reste un objectif peut-être un peu plus difficile à atteindre, mais bon, pourquoi
pas.
Oui, mais
l'objectif, il est national et européen quand même.
Oui.
C'est sûrement pas pour rien non plus.
C'est engagé. En tous les cas, c'est engagé au niveau du département et du Conseil général.
Est-ce qu'on peut...
Pour rebondir sur ce que disait le monsieur, c'est que on est quand même une région où on a un potentiel solaire qui est important et qui est sous-exploité. Donc on ne peut pas dire à l'heure d'aujourd'hui qu'on ne peut rien faire. Quoi. On a tout à faire encore.
Oui, c'est clair.
Excusez-moi, mais vous êtes arrivé juste après qu'on ait discuté de tout ça et on a dit qu'on pouvait faire, mais à condition d'être prudent sur les impacts paysagers notamment et sur un respect de la biodiversité.
Ok. Mais juste encore un aspect, pour revenir sur l'aspect financier, est-ce que la charte, c'est une question, peut engager par exemple les communes à donner des subventions aux personnes qui installent des panneaux solaires? Parce que l'État se désengage et petit à petit il ne va plus.
Le conseil régional donne ce qu'il donne encore, je crois, des aides aux générations.
Non, ça a beaucoup baissé là. Ça a beaucoup baissé là. Le Conseil général ne s'engage plus du tout. La région a beaucoup baissé.
Non, le Conseil général s'engage encore, mais sur certains points et avec une réduction des sommes.
Ouais.
Donc, renseignez-vous sur Internet, vous avez la possibilité même de monter les dossiers. Et le Conseil régional s'engage aussi, mais effectivement, avec une réduction des participations. Il reste toujours, comme vous le signaliez, des crédits d'impôt qui sont aussi une mesure incitative à ce type d'installation.
Oui, André. Juste un petit mot, je suis pas dans votre commission, mais je me balade un peu partout à propos des finances. Bon, les finances de la région, c'est surtout pour du fonctionnement. Mais par contre, ce qui n'était pas direct, vous avez raison de dire qu'au niveau de... Il y a eu un tel succès pour l'énergie solaire que nous, ils nous ont vidé les caisses un peu de temps. Je crois que le Conseil général, vous avez aussi les mêmes problèmes. Ah ouais. Tant mieux, hein, ça a démarré peut-être un peu trop vite, on a peut-être été un peu trop incitatif, et tous les crédits ou presque sont partis. Par contre, ce qui est intéressant financièrement, moi qui vais passer les dossiers à la région, chaque fois qu'une commune demande une subvention et qu'elle est située dans un parc, elle est regardée de plus près parce qu'elle a une cohérence par rapport aux autres communes, il y a une volonté de la qualité, donc c'est un atout
pour avoir des subventions pour l'assainissement, pour la station d'épuration, et pour tout, quoi. Quand on regarde le Queyras, il n'est pas vraiment un PNR très riche, mais une région très riche, le Queyras, pratiquement. Il y a eu des sommes très très importantes qui ont été versées parce qu'ils veulent faire quelque chose de bien. Ils cherchent la qualité, donc on les encourage, quoi, en gros. Sinon, il y a pas de, ça n'incite pas une commune à donner plus d'argent quand on est dans un parc naturel, je ne crois pas.
C'est plutôt une aide à la recherche de financement et ça facilite, encore une fois, c'est ce que je disais, le facilitateur, ouais, de l'obtention des aides financières pour les privés comme pour les communes.
Exactement.
Est-ce qu'on peut reprendre la liste d'enjeux là pour voir si on valide globalement, collectivement, les 6 enjeux qui ont été identifiés? Donc il y avait en 1 la définition d'une stratégie de maîtrise des consommations d'énergie, l'économie habitante de l'environnement sur le prisme. La promotion et l'aide au développement des installations productrices d'énergie renouvelable, donc bois, énergie solaire et éolien. La structuration et l'aide à l'exploitation de la filière bois, donc on en a un petit peu moins parlé, ce qui est beaucoup resté.
Oui. Enfin, votre voisin, M. Bigard, connaît bien le sujet. Il dira un peu bien. C'est vrai qu'il y a un gros potentiel. Alors, le problème. On a le soleil, mais on a aussi des terrains qui ont beaucoup de dénivelés, difficiles d'accès. Donc c'est un peu, on retombe sur les problématiques des énergies renouvelables, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, dans tous les cas, y aller franchement, mais il ne faut pas forcément regarder la dépense à court terme, parce que même pour le bois, enfin je ne dis pas de bêtises, mais c'est pas parce que c'est rentable qu'on va le faire, hein. C'est vraiment un autre objectif. Il y a beaucoup de difficultés liées au terrain, à l'exploitation, difficultés de trouver du personnel pour travailler. Par contre, il y a un potentiel qui peut-être avec la technique, les nouvelles chaudières, devenir intéressant. En tout cas, c'est intéressant, mais qu'on puisse le vulgariser plus. Après, ça, c'est surtout pour le bois énergie, c'est-à-dire le bois pour les chaudières, le bois en particules, le bois en granulés. Il y a de plus en plus de poêles en ce moment qui se vendent pour du chauffage particulier avec des granulés. Ça a l'air de bien marcher. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de transport parce que si ça vient du centre de la France, on rajoute de la pollution.
Sauf que vous parlez de granulés, pour faire le distinguo entre la plaquette et le granulé, il semblerait qu'on ait dans la région tout le moins privilégié la plaquette. Parce qu'il n'y a pas de subvention pour les chauffages individuels à granulés.
Si. Ah oui, c'est un poêle à bois. Hein. Mmh. Moi, là, il me semble que j'ai au moins 2 personnes qui en ont acheté qui m'ont dit qu'ils ont eu des subventions. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas.
Qui ont eu la subvention
pour le granulé, particulier, comment ?
La subvention d'installation de la région, la subvention de 1500 euros pour l'installation ?
Non.
Ça n'y est pas. Elle y est pour les plaquettes, mais pas pour les...
50% à peu près.
Non, ça, c'est le crédit d'impôt pour l'énergie renouvelable. Il y a une subvention qui est donnée par la région.
C'est un dispositif qui n'est pas lié à la nature du combustible, mais au label. C'est-à-dire qu'il peut être labellisé flamme verte. Et avec une référence à une norme européenne.
Mais ça, vous parlez pour la subvention du Conseil général.
Oui.
Il y a un troisième dispositif qui est régional, celui-là, qui vient de la région PACA. Et qui consiste à une dotation de 1500 euros pour les coûts d'installation. Et cette dotation-là, elle fait le distinguo entre le pelé, le granulé, et la plaquette.
D'abord, je ne vois pas pourquoi, mais
moi non plus.
Elle n'est pas très... Enfin, je la connais
c'est
pas.
C'est quel organisme qui donne ça?
La région. Non,
non,
pas au courant, non.
Le Conseil général a supprimé...
Oui.
Tout ce qui était poêle. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus que la référence aux installations type chaudière.
Ah, y compris
pas pareil que poêle.
Poêle et insert, c'est terminé.
C'est terminé.
D'accord.
Donc il n'y a plus que les chaudières. Fermé, insert.
D'accord, il n'y a plus que les chaudières, non.
Voilà.
D'accord.
Même les chaudières solaires, même les chaudières qui sont alimentées par le solaire.
Sur le solaire, c'est resté.
C'est plus 9 900 euros. Hein. Non, mais c'est... Si, juste pour rester un petit peu dans les cornes, en termes de fond, désolé de couper, mais en sous-commission, vous aurez tout le droit de dire de réapprofondir.
Le paragraphe 1 et 5, ils ne font pas doublon.
Alors attendez, je les relis, on voit ce qui fait doublon, j'en étais au 4. Mm-hmm. Donc le 4, c'est l'enjeu de développement de stratégie en matière de développement des installations productrices d'énergie renouvelable sur le territoire. Alors là, l'enjeu, c'est la question. Non, justement. Parce que le 2, c'est la promotion et le développement d'installations productives d'énergie renouvelable, on va dire, plus sur le principe de l'installation. Le 4, c'est en gros, il va falloir se définir des schémas de développement. Ouais. Le 4, c'est la stratégie. Le 2, c'est le concret. C'est l'opérationnel. Donc peut-être les reformuler, mais en gros, l'idée, c'est ça. Alors par contre.
Ouais, la 5 est là.
Hein. La 5, c'est les mêmes. Bon. Et donc le 6, suivi des projets d'infrastructure de dessin en énergie sur le territoire. Donc ça, c'est en lien avec, avec les schémas en fait, de développement. Si on fait un schéma de développement éolien, un schéma de développement photovoltaïque, là-dedans, il y a un peu l'approche infrastructure. C'est pas exactement le même enjeu, mais on s'en rapproche. Donc, est-ce que l'enjeu suivi des projets d'infrastructure de dessin en énergie, on le laisse? Il y a des hautes tensions, on peut aussi les ajouter, mais c'est pas l'énergie, mais la téléphonie, quoi. On peut le moduler.
Oui.
Mais ça, c'est un principe que tout parc naturel régional doit appliquer.
En énergie et en communication.
Ok. Est-ce qu'on valide ces enjeux? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux?
Je pense qu'il faudrait rajouter les micro-hydroélectricité. Donc la réhabilitation des moulins et des micro-centrales hydrauliques. Ça irait bien dans la structuration de la production. Quoi.
Et les micro-centrales électriques, elles sont la production.
Là, ça dépend du débit et de la chute.
Avec les chutes d'eau.
C'est
rien. À partir de 2,5 bars, à partir d'une pression de 2,5 bars,
on
peut installer une micro-centrale hydraulique.
Ouais, c'est Pico. Tu prends l'ancien
micro.
Tu prends l'ancien
micro. Non, c'est locomotive micro.
C'est un enjeu. Disons que c'est un enjeu, mais qui est.
Moi, ça, j'en ai acheté une.
Je sais pas.
Le
potentiel de production d'énergie renouvelable à exploiter, ça me paraît.
On peut rajouter dans le 2
en complémentaire en énergie.
C'est comme la structuration et l'aide à l'exploitation de la filière bois, c'est exactement la même chose. Quoi. C'est la filière micro-centrale.
Ça vient avant l'éolien. Ben, on avait étudié ça comme ça et après on a laissé tomber parce que ce serait chez nous, on le refait. Il y a parce que c'est fait par le soleil, c'est très bien, mais.
C'est
bien que ce soit
les batteries,
les déchets. C'est pas encore maîtrisé ça.
Les batteries, ça sera.
Bon, on va mettre la restauration, on va la mettre là-dedans.
Les micro-centrales.
Les batteries qu'on a, ça c'est des vieilles batteries et il y a un gros problème de déchets. Hein.
Ah bon? Moi, c'est quoi?
C'est la station
électrique.
Micro-centrale et hydroélectrique.
Ouais, moi j'en cherchais justement une micro-centrale.
Et on rentrera dans le détail
qui me donne beaucoup de pression. Et moi,
est-ce que l'enjeu véritable, ce ne serait pas ce point 2 et ce que disait M. Guéguet avant, c'était en cohérence avec la préservation des patrimoines naturels et architecturaux parce que par exemple, dans les communes, les maires aussi vont être confrontés, pas seulement les maires, à adapter des villages,
Justement, avec la vie des chantiers, des
jeunes et des. J'ai une école qui est responsable, c'est incité par le parc, c'est financé par
des villages, par ODM, où c'était très difficile d'installer,
même si c'est pas
les gens de chauffage, et ils ont travaillé très fort là-dessus, et ils ont beaucoup de renseignements.
C'est du produit
de la formation de nos
ou c'est juste. Non, c'est pour faire des énergies, c'est pour faire des énergies. Avec une chute d'eau,
parce que là on est dans les énergies renouvelables.
avec un débit de 15 secondes, c'est-à-dire un ruisseau qui va
nous aller à
la rive inférieure. En gros, tu as 1 kWh. Ça va être 1 kWh, ça te fait quasiment la consommation d'une famille. 1 kWh en permanence sur 24 heures.
Est-ce qu'on
va dire
là,
c'est
la
déjà
liste de 5 grands enjeux
qui va travailler en commission? Si t'en fais 50, ça fait 50 familles.